enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Vous savez, l'apôtre Paul, il dit au sujet des derniers temps, au sujet du retour du Seigneur, que des gens viendront et diront « Oui, mais il n'y a rien qui a changé depuis le commencement, donc finalement, il n'y a rien qui va changer. » Et parfois, c'est ce qu'on peut penser vis-à-vis de ce réveil dont beaucoup ont parlé, qu'on a annoncé. Il y a beaucoup de choses. Parfois, on les a annoncées, on a cru que c'était la saison pour notre Église, pour notre vie. On était déçus ou il est arrivé beaucoup moins que ce qu'on attendait. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a un grand réveil qui vient sur le monde. Il y a un grand réveil qui vient aussi sur les pays francophones. Avec mon épouse, nous avons vraiment à cœur les pays francophones. Nous croyons que les anglophones, ils ont beaucoup de ministères, ils ont beaucoup de livres, ils ont beaucoup de chanteurs, amen. Mais qu'il y a vraiment un besoin pour les pays francophones. Et on croit que notre pays, la France, ne va pas être ignoré de Dieu, alléluia. Qu'il y a même une passion typiquement française qui, mise au service de l'Évangile, peut produire quelque chose de très bon. Amen. Il y a une agressivité chez le français, vous avez remarqué? Mal utilisé, eh bien ça donne ce que ça donne. Et bien utilisé, alléluia. Ça peut faire lever toute une armée d'hommes et de femmes que rien ne peut arrêter. Donc il y a un grand réveil qui vient. Il dépassera par son ampleur tous les réveils précédents. On peut dire que c'est le dernier réveil aussi avant la venue de Christ. Et d'ailleurs... à l'apogée de ce réveil, justement, Christ viendra chercher son Église. Alors le retour de Christ, ça serait un autre sujet. On verra ça une prochaine fois. Dans Matthieu 24, 14, il nous est dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin viendra. Et la bonne nouvelle, l'évangile, donc, a été annoncé au cours des âges, mais il est fait allusion ici à une proclamation plus vaste, plus officielle, précédant les temps de la fin, où il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui n'aura pas entendu parler de Jésus-Christ. Dans Actes 2, 17, il est dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Or, ce passage s'est partiellement accompli le jour de la Pentecôte, où Jésus a répandu son Saint-Esprit sur ses disciples. Mais ce toute chair fait allusion à une grande quantité de personnes. Et Jésus a assimilé la fin des temps aussi à une moisson. Cette grande moisson d'âme signifie un grand réveil. Je crois qu'il est important de réaliser que nous faisons partie d'un corps. Et donc, dans mes cours régulièrement, je fais allusion à ce qu'ont reçu d'autres hommes, d'autres femmes de Dieu, que j'estime être des personnes sérieuses qui évoluent peut-être dans un ministère de pasteur, peut-être un ministère de prophète, d'apôtre. Et dans cet enseignement, ce matin, je veux citer plusieurs paroles que des hommes et des femmes dignes de confiance ont pu recevoir. Rick Joyner, qui est prophète, a reçu des révélations à travers des visions, des paroles de connaissance sur la fin des temps. Et il dit au sujet de cette moisson, « À partir de maintenant jusqu'à la fin, plus de personnes viendront à la connaissance de Jésus qu'il y en a eu depuis la Pentecôte à ce jour. » Avant la fin, il dit « Chaque village, dans chaque nation, aura entendu prêcher le message de l'Évangile. Chaque personne qui vit entendra parler de Jésus. » Donc, il y a des temps glorieux pour l'Église. Et je l'ai dit plusieurs fois, toutes les déceptions, tous les adultères, tout ce qui n'a pas fonctionné n'empêcheront pas Jésus-Christ d'avoir une Église glorieuse dans les temps dans lesquels nous sommes entrés. Parce qu'un réveil sans église glorieuse, ça ne va pas ensemble. Amen. Alors peut-être que tu ne crois plus dans l'église, mais je le dis souvent, Jésus, il y croit toujours. L'ampleur de ce qui vient ne peut être comparée à quoi que ce soit dans le passé. L'ensemble de l'univers, il dit Rick Joyner, va même être secoué par ce qui va se passer. Le message ne sera pas prêché en parole seulement, mais aussi avec puissance et une démonstration sans précédent du Saint-Esprit. N'est-ce pas ce à quoi nos cœurs aspirent? Quelque chose de plus, quelque chose de gros là. Amen. Ou tu reçois plus que ce que tu attendais au lieu de toujours voir moins. Vous connaissez cet état de choses, vous attendez la bénédiction et quand ça arrive, pop, c'est tout petit. Bien, la Bible nous dit que Dieu veut nous faire rentrer dans une autre dimension pour que s'accomplisse ce verset de l'Écriture qui dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, elle agit en nous, hein,
au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous prions et pensons. Donc Dieu veut nous dépasser. Moi, je veux être dépassé. Alléluia. Je veux plus vivre. J'attends une grosse offrande, il arrive une grosse note EDF. Non, je veux que ce soit le contraire. Et je rentre de plus en plus dans ces choses-là. Amen. Nous l'avons vécu le week-end passé. Tu t'attends à 500 euros, il en rentre 3000. Amen. On a été dépassé le week-end passé. À une journée, on a vendu 2000 euros de cassettes de CD. Amen. On a manqué de foi. L'église des derniers temps ne regardera plus, dit encore Rick Joyner, l'église primitive avec envie. Vous savez, ah, c'était le bon temps, le temps des apôtres. À cause des grandes choses qui se feront en ces jours. Et il ajoute, on dira que certainement Dieu avait gardé le meilleur vin pour la fin. Et je crois que là, il y a une parole spécialement pour les Français. Et il ajoute, les temps les plus glorieux dans toute l'histoire sont maintenant venus pour nous. Vous savez, tous les hommes de Dieu ayant reçu des révélations, des plus sérieuses, concernant les temps de la fin, ont vu ce grand réveil qui se répandait avant la venue de Christ. Glenn Foster il dit, cette génération est celle qui verra les plus grandes églises de toute l'histoire, celle où les foules les plus grandes que l'on n'ait jamais assemblées pour louer, adorer, écouter la parole, se réuniront. Et il prophétise, il dit, mon peuple, jamais le ciel ne fut plus ouvert que pour votre génération en ce moment. Il faut que se répande le rafraîchissement promis sur toute chair. Il est temps maintenant pour la vague nouvelle. On est supposé être des chrétiens, nouvelle vague. Amen. Mon onction, il ajoute, est là pour briser tous les jougs et faire jaillir de nouveaux ministères. C'est-à-dire des choses peut-être que personne d'autre n'a faites. Peut-être tu te dis, je suis trop original pour le corps de Christ. Mais non, si... Les gens sont étonnés, c'est bien, on veut du nouveau. Le réchauffé, on en a assez. Demos Chakarian, fondateur des hommes d'affaires du plein évangile, Dieu lui a montré que le grand réveil qui vient, et la nouvelle vague aussi, qui va se répandre, sera caractérisée par une grande puissance de l'esprit, et verra la participation de tous ceux qu'on appelle, dans un certain jargon, les laïcs. Bref, toutes les âmes de bonne volonté. Dieu n'a pas l'intention d'utiliser seulement les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, mais toute âme de bonne volonté, parce que chacun de nous a un appel et doit un ministère dans le sens large du terme. Nous avons tous une destinée et sommes appelés à rentrer dans cette destinée. C'est ma définition d'une vie réussie, c'est rentrer dans ta destinée. Tu n'as pas une vie réussie parce que tu es apôtre ou prophète. Tu as une vie réussie parce que tu es qui tu es supposé être dans le plan de Dieu. Et qui Dieu avait prévu que tu sois avant même que tu sois sorti du ventre de ta mère. Amen. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'avais nommé prophète pour les nations. Amen. Dans le texte original, je t'avais donné. Donc chacun de nous est donné au monde. Chacun de nous est donné à l'église. Tu es un cadeau pour cette église. Tu es un cadeau pour cette église. Chacun de vous est un cadeau pour cette église. Amen. Le tout, c'est de ne pas devenir un cadeau empoisonné. Smith Wigglesworth, je demande à ma femme de prononcer.
Wigglesworth.
C'est la complémentarité des ministères. Il a prophétisé que ce qu'il avait vécu à son époque... Vous vous rendez compte, un ministère qui en a vu des miracles. Il a prophétisé que ce qu'il avait vécu, lui, à son époque, n'était pas comparable à ce qui allait venir par la suite, tant la puissance de l'Esprit allait se manifester avec une grande mesure. Amen. Et pourtant, la plupart d'entre nous, on serait content d'avoir dans notre église les miracles qu'a vu Smith
Wigglesworth
pendant son ministère. Hudson Taylor, qui avait la même coupe de cheveux que moi. Un jour, alors qu'il était en train de prêcher, il s'arrêta soudain en plein milieu de sa prédication et resta un moment silencieux. Et les yeux fermés, il expliqua par la suite qu'il venait d'avoir une vision dans laquelle il vit un réveil national se répandre en Russie, en Europe et dans le monde entier. Tommy Hick, un évangéliste, Dieu lui dit, « C'est ce que je fais dans les derniers temps, je répandrai et je restaurerai tout ce que les insectes ont détruit. » Dans la fin des temps, il dit, mon peuple ira de l'avant, revêtu de mon onction, telle une armée. Et ça, ce sont tous les thèmes que nous abordons pendant ces séminaires. Le prochain séminaire de Arles sera l'armée qui se lève. Telle une armée qui se répand sur la face de la terre. Et dans la vision qu'il a eue, il dit, ni le feu, ni la persécution ne semblaient pouvoir stopper ces gens. Amen. Vous savez, quand vous êtes prêt à mourir, qui peut vous stopper? Donc nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont prêts à mourir pour ce qu'ils croient. Donc il est important de réussir sa vie dans le sens de réussir sa destinée, mais c'est bien de réussir sa mort aussi. Ça a l'air d'intéresser moins certains. Et il précise, les malades étaient guéris, les yeux des aveugles s'ouvraient. Arwin Moyd, aussi, c'est pas du parler en langue, c'est son nom. Il dit, vous avez entendu un réveil et un retour des miracles et du surnaturel. Il prophétise là, vous et votre génération le verrez, mais cela ne viendra que par moi, dit le Seigneur. Kenneth Hagin dit, le temps de la fin est proche. Il a vu toutes ces choses en vision. Il lui a été précisé, tous les dons de l'Esprit seront en opération dans l'Église des derniers jours. L'Église fera de plus grandes choses encore que l'Église des premiers temps. Elle manifestera plus de puissance, de signes et de prodiges que ceux mentionnés par le livre des Actes. Et il lui fit préciser, il est temps que le don des miracles soit mis plus en évidence. Amen. On a entendu parler de beaucoup de guérisons, mais des miracles, les yeux qui repoussent, les bras qui repoussent, oui, on en a parlé, mais ce n'est pas tous les jours. Hein? Alléluia. Des résurrections, nous avons besoin de miracles de résurrection. Déjà ressusciter nos assemblées. Alléluia. Ron White, il dit, il a une vision. Je vis comment il commençait à se passer des choses merveilleuses dans toute l'Europe. Cet homme s'est retrouvé dans sa chambre un jour en train de prier et il a vu le mur s'illuminer, une grande carte de l'Europe où se déroulaient plusieurs événements. Il dit, je vis des hommes et des femmes tomber à genoux dans les rues, dans les maisons, partout les hommes crier à Dieu, lui demandant aide et miséricorde. N'hésitez pas à crier, n'ayez pas peur du bruit dans l'assemblée. Amen. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, n'aie pas peur du bruit. Un peu plus fort. Voilà, on priera pour ceux qui sont sourds après. Hein? Ou qui le sont devenus pendant les 2 minutes. Là. Et dit, tandis que les gens appelaient, je vis comme Dieu qui commençait à répondre à leur appel. Alors mon cœur s'est mis à trembler, et là il est face à une vision qui se déroule sur le mur de sa chambre, et mon esprit chantait de joie. Je vis du ciel des flammes tomber sur toute l'Europe. Dans chaque pays et chaque nation, Dieu répondait à l'appel du peuple. Il m'a révélé qu'il y aurait un réveil dans les nations européennes, un réveil plus grand que tout ce qu'on a pu imaginer. On y revient chaque fois. Donc nous croyons que Dieu va littéralement faire se répandre le plus grand réveil parmi les peuples comme un ouragan. Alléluia. Ça ne va peut-être pas venir dans les 15 jours, mais ça va venir dans les temps qui sont devant nous. Il disait qu'un réveil arrivait pour les mêmes raisons qu'une moisson arrivait. Parce que l'on se met un jour en vue de la moisson et qu'il n'y a pas de plus grand miracle à provoquer un réveil qu'il y en a à provoquer une moisson. Ce sont les mêmes lois qui sont à la base de l'une et de l'autre. Ce qu'un homme sèmera, il le récoltera. Amen. Dans Ésaïe 1,19, il est écrit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Spécialement pour nous Français, nous sommes des rebelles dans l'âme. Amen. Des rebelles de chez rebelles souvent. Et nous avons besoin d'avoir de la bonne volonté. Quand nous sommes dans une église, nous avons besoin d'avoir une attitude de serviteur. De ne pas être là pour savoir qui va nous servir, mais être là à chercher qui on peut servir. Des gens qui ont de la bonne volonté. Amen. Donnez-nous un peuple rempli de bonne volonté. Soyons nous-mêmes remplis de bonne volonté. Et le réveil, ce n'est pas quelque chose qu'il va falloir prier et jeûner pendant 40 jours pour que ça arrive. Ça va nous surprendre beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut imaginer. Parce que c'est un processus naturel. C'est une conséquence naturelle du fait qu'on s'approche de Dieu. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu sans s'approcher des autres. Amen. Dans 2 Chroniques 7, 14, 16, nous lisons, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, » et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. En d'autres termes, s'il réforme certains points incontournables, Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Guérison, nous avons besoin de voir la guérison manifestée au sein du corps de Christ. Dites-moi, c'est pas normal quand même. Le Seigneur que nous servons, il était connu pour sauver les âmes et pour guérir les malades. Est-ce que vous me suivez? Avant même d'être connu pour le Dieu qui nous fait prospérer financièrement, ça fait partie du lot, amen. Mais avant tout, Jésus prêchait la bonne nouvelle, il enseignait et il guérissait les malades. Et en France, nous avons très peu de malades guéris. Enfin, il manque quelque chose au ministère, quelque chose d'essentiel, d'incontournable au ministère de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce quelque chose, nous le voulons. Dieu déclare ici que si son peuple fait quatre choses précises, s'humilie, prie, cherche sa face et se détourne de ses mauvaises voies. Alléluia. À quoi ça sert de s'humilier, de prier sans se détourner de ses mauvaises voies? Lui fera trois choses qui équivalent au réveil. Il est question donc de la loi de cause à effet. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Parfois on attend que Dieu s'approche de nous, mais Dieu nous demande de nous approcher de lui. Dieu s'est approché de nous il y a 2000 ans en donnant la vie de son Fils unique, Jésus-Christ. Et Jésus a dit qu'il n'est pas loin de nous, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc Dieu est près de nous, c'est à nous de nous trouver près de lui. Lui, il reste fidèle. C'est à nous de développer notre fidélité à son égard. C'est nous qui permettons à Dieu d'envoyer le réveil. Il ne sert à rien de prier. Dieu envoie un réveil. Nous l'avons vu hier soir. Dieu touche les jeunes, d'accord. Mais Dieu touche mon couple d'abord. Et Dieu te dit, si tu veux que je le touche, fais quelque chose. Ça ne sert à rien de prier. Dieu envoie un réveil sans faire les choses dont Dieu a fait une condition au réveil. La Bible dit en effet que nous avons la responsabilité. Nous pouvons avancer ou retarder l'avènement du Seigneur. Est-ce que vous vous rendez compte? La responsabilité qui est entre nos mains. Nous pouvons hâter ou retarder l'avènement du Seigneur. Donc nous dépendons de Dieu et Dieu dépend de nous. Quelle confiance le Seigneur nous fait. Alléluia. Dans une des visions que Kenneth Hagin a eue de Jésus, le Seigneur lui dit que l'Église devait entrer dans le plan de Dieu si elle ne voulait pas perdre ce qui était en train d'arriver. Donc on peut perdre ce qui est en train d'arriver. Ce qui va repousser encore le fait que ça arrive. Et si ça repousse le fait qu'un grand réveil arrive, ça repousse le fait que Jésus revienne. Parce que Jésus vient pour chercher une église glorieuse. Combien cela nous donne à réfléchir? Dieu ne travaille pas seul. Dieu veut travailler avec toi. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, Dieu a choisi de travailler avec toi. Donc, nous devons nous sentir importants ce matin. Il ne faut plus sentir qu'on est des chrétiens, qu'on ne sert à rien. Dieu, dans sa grâce, nous a donné une petite place. Mais enfin, il aurait pu faire sans nous. Hein? Eh bien non, il a décidé de ne pas pouvoir faire sans nous. Donc, je suis important. Tu es important. Ce n'est pas une armée, comme on dit souvent. C'est une armée sans visage. Non, c'est une armée, chacun. Je n'ai pas de visage. Chacun a un visage bien précis, chacun a un nom bien précis que Dieu lui a donné dans le monde spirituel. Chacun est une entité. Et si le Seigneur avait dû venir mourir seulement pour un seul d'entre nous, il serait venu quand même. Parce que Dieu ne nous sauve pas en vrac, tous dans un sac. Il nous sauve en tant qu'individu chacun. Et les paroles que nous annonçons pendant ce séminaire, chaque individu doit les recevoir pour lui-même. Alléluia. Partout où des réveils ont lieu, des hommes ont commencé à prier, à chercher la face de Dieu de tout leur cœur et à se détourner de leur mauvaise voie. Et ils ont ouvert le ciel par leur attitude. Parfois, notre mauvaise voie, c'est ce qu'on pense être servir Dieu. Mais la manière dont on le fait, pour Dieu, c'est une mauvaise voie. C'est une manière évangélique dont on a hérité. Mais Dieu, ce n'est pas le Dieu des évangéliques, ce n'est pas le Dieu des catholiques, ce n'est pas le Dieu des protestants. Amen. C'est Dieu. Ce n'est pas à lui de se mettre à notre sauce, c'est nous de se mettre à la sienne. Amen. Et lorsqu'il vient trouver Josué, le chef de l'armée de l'Éternel, Josué lui dit, avec qui tu es? Vous savez ce qu'il répond, le chef de l'armée de l'Éternel? Ni avec un, ni avec l'autre. Il est pour Dieu, il n'est pas pour être pour un contre l'autre. Quand un couple a un problème, Dieu il n'est pas avec le mari contre la femme, avec la femme contre le mari. Dieu il est pour que les deux se réconcilient. Dieu il est contre le diable. Nous on aimerait qu'ils prennent parti pour nous contre l'église d'un tel, pour notre ministère contre le ministère d'un tel. moi contre mon conjoint. Dieu, il est ni pour un ni pour l'autre. Dieu, il est pour Dieu. Amen. Et nous, nous ne sommes pas appelés à prendre des parties non plus. Nous sommes appelés à être pour Dieu. Je roule pour Dieu. Dites-le.
Je roule pour Dieu.
Voilà. Alors, roulez. Tommy Hick, déjà cité, évangéliste qui a fait un travail remarquable en Argentine, a eu une vision le 25 juillet 1961, alors qu'il se trouvait au Canada. Bon, ça ne va pas changer grand-chose pour vous, mais c'est marqué dans mes notes. Il a vu un géant allongé sur la face de la terre. Et ce géant avait du mal à rester en vie. Il était couvert de toutes sortes de débris et de créatures hideuses. Il se relevait parfois, il se secouait. Et lorsqu'il le faisait, des milliers de ces créatures hideuses s'enfuyaient loin de lui. Et puis, il se recalmait. Et quand il se recalmait, toutes ces créatures revenaient pour le paralyser. Amen. Nous connaissons tous ces états dans l'Église d'euphorie. On a un temps d'euphorie de bourre, vous savez, mais ça ne dure pas longtemps en général. Il y a tout qui commence à s'arranger, et puis au bout de 15 jours, ben, on se repose sur nos lauriers, et il y a tout qui redégringole. Enfin, pas ici, mais à Toulon. Soudain, le géant étendit les mains vers le ciel. Étendez les mains, alléluia. Alors moi, je crois que tout ce qui est marqué dans l'Écriture a un sens spirituel. Et si Dieu nous dit d'élever des mains pures, amen, eh bien, c'est parce que ça a un sens spirituel, c'est comme si on sortait des antennes. Donc, n'hésitez pas à prier en élevant les mains. Alléluia. Vous pouvez les baisser maintenant. C'est biblique d'élever les mains. Amen. Soudain, le géant étendit les mains vers le ciel. Alors, les créatures hideuses se mirent de nouveau à fuir et à retourner vers les ténèbres. Et progressivement, le géant commença enfin à se relever. Ses mains et sa tête se retrouvèrent dans les nuages. Amen. Donc, nous sommes un peuple qui doit avoir la tête dans les nuages, mais les pieds bien sur terre. Il continua alors à louer Dieu. Et les nuages devinrent comme de l'argent. Et de ceci commença à couler un liquide, appelons-le onction, qui se répandait sur le géant. C'est l'onction qui brise les jougs. Ce ne sont pas nos bonnes intentions seulement, ce ne sont pas nos efforts humains, ce n'est ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Mais lorsque nous faisons l'effort d'aller vers Dieu, lui fait l'effort de nous donner la grâce de pouvoir nous approcher encore plus près. Amen. Alors il continua alors à louer Dieu. Et les nuages, ce géant, les nuages devinrent comme de l'argent. Et de ceci commença à couler cette onction, ce liquide qui se répandait sur tout son corps. Et ce géant se mit à fondre et de lui sortirent des milliers de personnes recouvertes de ce liquide. Donc recouvertes d'onction. Le mot chrétien signifie petit oint. Celui qui a été oint à l'image de l'oint des oints, Jésus. Amen. Donc l'onction est indissociable de la vie du chrétien. Nous avons été oints. Amen. Nous avons été oints pour décompliquer la vie des gens. Elle est déjà assez compliquée sans qu'on en rajoute. Alléluia. Donc sois connu comme quelqu'un qui décomplique la vie des autres par l'onction qui est sur toi. Décomplique la vie de ton pasteur. Décomplique la vie de ta femme. Décomplique la vie de tes enfants. Alléluia. Alors nous voyons là que lorsque le géant, l'Église donc, réagit, répétez après moi, réagit, les ténèbres reculent. Et donc, Dieu lui communique son onction pour le réveil. En fait, lorsque le géant se réveille, Dieu l'utilise pour réveiller le monde. Amen. Nous voulons un réveil dans ce monde, mais nous ne pouvons pas avoir un réveil dans ce monde si nous n'avons pas un réveil dans l'Église. Amen. Réveillez l'esprit de Josué, l'esprit de Zorobabel. Alléluia. Dieu réveille d'abord l'esprit de certaines personnes pour qu'à leur elle réveille tout un peuple. Alors au départ, c'est une minorité de personnes qui est réveillée par l'esprit de Dieu. Mais cette minorité est ensuite utilisée pour réveiller des milliers de milliers. Amen. Vous ne voulez pas que l'église de la Roche-sur-Yon, un jour, soit un instrument entre les mains de Dieu pour réveiller des milliers de milliers. Amen. Alors peut-être, on arrête de prier pour que ces milliers se réveillent et on prie pour que nous, on se réveille. Alléluia. Le réveil, c'est le souffle de Dieu qui passe par là où il peut passer. Ce souffle va atteindre ce souffle nouveau. Ce souffle, il fallait que je le case. Ce souffle va atteindre certaines assemblées, pas d'autres. Certains individus et pas d'autres. Parce que Dieu ne s'impose pas. Amen. Vous imaginez, pendant tout le temps où Jésus a vécu, il y avait des gens, c'était ses voisins. Ils devaient habiter la maison d'en face. Ils n'ont pas reconnu qu'il était le Messie, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc je peux passer à côté des visitations de Dieu, je peux passer à côté de l'appel de Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui va me pousser de force dans ces choses-là, c'est à moi d'aller chercher. Celui qui cherche trouve. Et lorsque je cherche, je vais voir ce que d'autres ne voient pas. Je vais comprendre par l'Esprit de Dieu ce que d'autres ne comprennent pas. Alléluia! Parce que je vais avoir un pied dans ce monde, mais un pied dans l'autre monde. Et les gens qui ont les deux pieds, les chrétiens qui ont les deux pieds dans ce monde, ne vont pas comprendre ma manière de penser, ma manière de raisonner et ma manière de voir. La moisson va avoir lieu là où le terrain a été labouré, là où il a été retourné, là où la semence a été plantée. Ce labour du terrain, c'est avant tout le changement de nos mentalités. Nous avons besoin que nos mentalités soient retournées par rapport à tout un ensemble de fausses conceptions, afin de pouvoir vivre le réveil. Il faut que nous levions les obstacles qui empêchent son arrivée. Dans Ésaïe, le Seigneur dit « ôtez les pierres du chemin de mon peuple ». Il y a un peuple qui est en train d'arriver, il faut qu'il trouve le chemin nettoyé. Amen. Parmi ces obstacles, nous trouvons l'individualisme. Eh bien, on ne peut pas travailler seul. Nous avons besoin de travailler avec d'autres. Alléluia. La médisance. La médisance est une forme de malédiction. Nous pouvons chanter tous les Alléluia que nous voulons. Si après nous parlons sur les gens, nous les maudissons. Et nous nous maudissons nous-mêmes. Nous court-circuitons l'effet de nos prières. L'incrédulité, l'ignorance, toutes ces choses, nous sommes appelés à les lever du milieu du chemin. Vous savez que notre monde, et vous le voyez, est en train de rentrer dans une période de paradoxe. Les ténèbres sont en train de se répandre sur le monde de plus en plus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, la lumière elle a l'intention de briller de plus en plus. Comment ? Le diable est en train d'envoyer le sida, la grippe aviaire, toutes ces choses-là. Et Dieu, il ne va pas bouger, le pauvre, il est dépassé. Non, il y a besoin que... Et une action de Dieu pour contrebalancer tout ça. Il en va de l'honneur de Dieu, de prouver quand même que ce n'est pas à la maladie de dominer. Est-ce que vous me suivez ? Il en va de l'honneur de Dieu. Donc à la rigueur, si vous ne voulez pas prospérer pour vous-même, désirez prospérer pour Dieu. Pour que les gens puissent dire, voyez combien leur Dieu il est grand. Amen ? Amen ? Les ténèbres sont en train de se répandre dans ce monde. Mais la lumière... va se lever de plus en plus. Elle va se lever à travers l'Église. Ténèbres et lumière vont continuer chacun à s'amplifier. L'Église, c'est l'assemblée des chrétiens. Plus précisément, des chrétiens authentiquement nés de nouveau. Ce n'est pas seulement l'assemblée des chrétiens authentiquement nés de nouveau, c'est l'assemblée des chrétiens authentiquement nés de nouveau qui sont placés sur cette terre pour exercer le gouvernement de Dieu. Voilà la définition de ce qu'est l'Église. Nous sommes là sur cette terre pour exercer le gouvernement de Dieu. Pas pour subir. Pas pour être enfermé et se protéger des attaques de l'adversaire. Jésus a dit que cette église, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Amen. Et quand on prend le texte original, ça ne signifie pas que cette église, elle se garde de l'action des portes de l'enfer. Ça signifie que c'est une église agressive, elle va jusqu'aux portes de l'enfer pour arracher les âmes afin qu'elles portent à l'enfer. Voilà ce que ça signifie. Agressif. Il faut que vous deveniez agressif. Amen. Vous savez, l'image que les gens ont souvent, c'est du chrétien, il est mou, quoi. Le chrétien mou, hein. Oh, d'où Jésus. Ah, un peu plus de virilité, amen. Il y a toute une forme de christianisme qui n'a rien de viril. Ça ne donne pas envie. Amen. Vous croyez que Jésus, il n'était pas viril? Que ton non soit non, que ton oui soit oui, amen. Autant il était plein de compassion, autant il remettait d'autres personnes bien à leur place. On a besoin d'un christianisme viril. Amen. C'est pas d'où Jésus, c'est au nom de Jésus, ça va changer. Ésaïe 62, car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Et oui, c'est terrible. Mais, répétez après moi, mais. Ah, il y a un mais. Mais sur toi, tourne-toi vers quelqu'un, mais sur toi. L'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Ésaïe 62. Wouh! Donc si le mal va devenir de plus en plus mauvais, le bien va devenir, si je veux dire, de mieux en mieux. Ok? Donc n'ayez pas vos yeux sur la grippe aviaire, n'ayez pas vos yeux sur le sida, n'ayez pas vos yeux sur toutes ces choses qui donnent envie de se suicider. Ayez vos yeux sur le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Alléluia. Et dites-vous que plus il y a de problèmes, plus Dieu va se lever. Amen. Pour changer le cours des choses. Parce qu'il en va de son honneur. Et il ne va pas se lever indépendamment de l'Église, car il est la tête du corps que nous sommes. On va voir de plus en plus clairement dans ces temps, que ce soit dans le monde ou dans l'Église, la différence entre la lumière et les ténèbres. Moi, j'aime beaucoup ce passage Malachie 3:18. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant. Vous ne voulez pas voir dans l'Église bien la différence entre un juste et un méchant? Moi, j'ai vu des gens faire des trucs dans mon Église, mais Ananias et Saphira, ils n'ont pas fait le dixième. Et ils sont toujours vivants. Et puis, j'ai vu des gens super mourir à petit feu du cancer. Oh, mais il y a quelque chose qui ne va pas, là. Je n'ai pas l'intention d'accepter ça. Le diable se glorifie, et pendant que des gens font n'importe quoi, eux, il n'y a pas de jugement. On ne voit pas la différence entre le juste et le méchant. Vous n'êtes pas choqués de ça? Moi, je suis choqué. Sérieusement choqué de voir le comportement de certaines personnes qui se disent chrétiennes et s'en sortir, et d'autres gens merveilleux mourir dans la souffrance, pas avoir un seul centime pour finir les fins de mois. Je ne suis pas d'accord. Parce que le Dieu que je connais, il est juste et il veut installer la justice déjà dans son église, amen, et il veut qu'on voit la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a beaucoup de justes qui périssent. Il y a beaucoup de méchants qui vivent. Et dans l'Écriture, Dieu dit que ce n'est pas normal cet état de choses. Et donc il faut se lever pour libérer l'autorité à un niveau supérieur pour que les choses reviennent à leur place. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est pour ça que j'ai signé quand je me suis converti. Donc il nous faut discerner les temps dans lesquels nous sommes entrés. Savoir à quoi nous attendre, comme à quoi ne pas nous attendre. Il est important que notre esprit soit correctement conditionné par rapport à ces temps, d'où ces enseignements, car la foi vient de ce qu'on entend. À cause de la part que nous avons à prendre, justement, dans ces temps. Souvent, les gens ne s'y retrouvent plus lorsqu'on parle de la fin des temps. Ils se disent, est-ce que ce sont des temps de destruction ou de prospérité, de destruction ou de restauration? Alors, on ne sait plus. La réponse est qu'en fait, ils sont les deux à la fois. Les ténèbres se lèvent sur le monde, mais la lumière se lève sur l'Église. Du moins sur la partie qui veut bien rentrer dans cette lumière. L'Église, à son tour, va refléter cette lumière sur le monde. Alléluia. Il faut que tu donnes envie de servir Dieu. Amen. Certains enfants de père, la dernière chose qu'ils veulent faire, c'est devenir pasteur. Parce qu'ils ont l'impression parfois qu'ils ont toujours eu le plus mauvais. Il faut donner envie de servir Dieu. Amen. Il faut que les gens qui se marient, ils aient envie de se marier et croire que ça va marcher. En voyant des couples chez qui ça marche. Sans que ça empire. Amen. En devenant meilleur de jour en jour. Donc nous avons une responsabilité. Alléluia. Toute l'Église et tout le monde ne recevront pas la lumière et vivront alors les conséquences des ténèbres. Plusieurs églises vont prospérer, d'autres vont se détruire, de même pour certaines parties du monde. Il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Nous entrons dans des temps où les ténèbres et la lumière vont s'affronter comme jamais sur cette terre. À l'apogée de ce grand réveil et prospérité du corps de Christ, Jésus enlèvera son Église, ou du moins la partie qui est rentrée dans le souffle de l'Esprit. Amen. Rappelez-vous les vierges sages et les vierges folles. Ce sont toutes des vierges qui appartiennent à l'époux, amen, mais elles ne sont pas toutes enlevées. Tommy Hick et Ron White, cités précédemment, ont clairement vu dans la vision qu'ils ont eue chacun que l'enlèvement de l'Église se produisait à l'apogée du réveil. Alors seulement les ténèbres se répandront sur toute la terre et qui paraîtra l'Antéchrist, c'est un autre enseignement aussi. Jusqu'à ce que Jésus vienne mettre un terme à toute cette destruction par son retour définitif. Alléluia. Oui, il y a un grand réveil qui vient. En fait, il est déjà partiellement là. Robert Liardon, un homme de Dieu, fut enlevé deux fois au ciel durant sa vie. Une fois lorsqu'il avait 8 ans et plus tard. Il raconte que la première fois, il vit dans un lieu au ciel des chars de feu en grand nombre. Et la deuxième fois, il s'étonna de ne pas les voir. Et il lui fut expliqué que ces chars de feu avaient déjà quitté le ciel pour la terre en vue d'un réveil qui devait s'y répandre. Il y a des chars de feu qui ont déjà quitté le ciel. Ouh. Donc, c'est en cours. C'est pas quelque chose qui va arriver quand je serai mort, c'est en cours. D'ailleurs, Jésus a dit que la génération qui verra les signes que nous voyons actuellement, le retour des Juifs en Israël, à commencer par le plus important, eh bien, verra le retour de Christ. Le tout, c'est de se qualifier dans la partie de l'Église qui sera glorieuse et utilisée. Ouh ! Ah, moi, je ne veux pas passer à côté, là. Être arrivé jusqu'ici pour passer à côté des garrots. Donc, le réveil est en train de se répandre progressivement par vagues successives. Alléluia. Qui vont aller en augmentant, en intensité, en grosseur. Et nous, nous sommes les surfeurs. Nous avons les pieds dans l'eau actuellement. Cette eau va monter jusqu'à nous immerger. Alors, ça fait peur. Au début, on s'amuse. On fait des pâtés, il y a de l'eau. Et puis, ça commence à monter. Seigneur, tu ne vas pas arrêter? Non. Sommes-nous prêts à nous laisser immerger? Comme je l'ai déjà mentionné, à l'apogée de ce réveil, Christ enlèvera son église. Non pas une église faible, non pas une église diminuée, comme l'enseignent certains qui mélangent le déroulement des événements de la fin, mais une église glorieuse. Dans Apocalypse 19, 7, il nous est dit que son épouse s'est préparée. Jésus la voit et dit « Waouh !» Quand il la voit, il peut plus tenir au ciel. Il dit, il faut que j'aille vite la chercher. Pour l'instant, il dit, bof. Peut mieux faire. Christ viendra chercher une épouse prête, présentable, belle, complète. C'est-à-dire une église qui manifeste puissamment les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit, dans laquelle évoluent aisément les saints ministères et bien d'autres. Une épouse qui manifeste au grand jour le plein évangile. Une épouse pour qui le ministère n'est pas réservé au saint ministère. Tout le monde sert. Tout le monde est à plein temps pour Dieu. Je suis à l'usine, je sers Dieu à l'usine. Je vends des merguez, je suis en mission pour Dieu. Alléluia. D'ailleurs, il y a des gens qui prêchent, il faudrait mieux de vendre des merguez. Ils auraient plus de résultats. Et il nous est dit qu'il lui a été donné à cette épouse de se vêtir de fin lin. Éclatant et pur. Wow. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Oh. Gloire à Dieu. On dit souvent dans certains milieux, je vais terminer par là, que Christ peut revenir à n'importe quel moment. Vous avez déjà entendu cet enseignement? Oui, Christ peut revenir à chaque instant. Mais non, c'est faux. Jésus ne reviendra pas avant que son épouse ne soit prête à le rencontrer et à être enlevée à sa rencontre. Et merci Seigneur pour le temps qui nous est donné, utilisons-le pour nous préparer. Amen. Au lieu de l'utiliser pour nous détruire les uns les autres, utilisons-le pour développer les liens d'amour les uns avec les autres. Amen. Pour faire croître notre Église en maturité, avant même de vouloir qu'elle croisse en nombre. Amen. On s'est tellement concentré sur le nombre à un moment donné qu'on en a oublié la maturité. Mais ce qui est prioritaire, c'est la maturité. Maintenant, la maturité va engendrer automatiquement le nombre. Alléluia. Parce qu'une église mature est une église militante qui porte du fruit. Ouh ! L'épouse doit d'abord sortir de son sommeil, se laver, revêtir ses habits de noces. Vous avez vu la préparation pour Esther ? C'est plus que pour Miss France, hein ? Tout cela, c'est la définition du réveil. L'épouse qui est prête, alléluia. L'épouse qui commence à rentrer dans la chambre nuptiale, amen, elle est en route. Et l'époux qui vient à sa rencontre. Un grand réveil vient, c'est sûr. Ésaïe 28, 27, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Peratsim pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail extraordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu veut faire qui doit nous dépasser. On va le relire. « Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Peratsim pour faire son œuvre étrange, comme à la roche sur Yon, on pourrait dire, comme à Poitiers. Hein? » Il y a des gens de Poitiers. « Vous mettez le nom de votre région, le nom de votre ville, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail extraordinaire. » Ce n'est pas un petit réveil, ce n'est pas un petit rafraîchissement, c'est un travail, répétez après moi, extraordinaire. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Seigneur, ce que nous voulons, c'est que tu puisses à l'aise, aisément exécuter ton travail extraordinaire au milieu de nous déjà et ensuite à travers nous dans ce monde. Croyons que tout ça c'est bien plus que des paroles, croyons que c'est la réalité. C'est-à-dire nous nous sentons humainement dépassés par cette réalité, je suis d'accord, moi le premier. Mais notre confiance n'est pas en nous ce matin, notre confiance elle est en toi. L'extraordinaire, nous ne l'attendons pas de nous l'attendons de toi. Tu vas être extraordinaire à travers nous, Seigneur. Vous voulez que Dieu soit extraordinaire à travers vous? Amen. Oh, gloire à Dieu. Juste adorer le Seigneur quelques instants. Oh, nous te bénissons, Seigneur.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.